on est tombé sur une location qui est à 80 km de Paris, qui est une maison avec un grand jardin et une piscine. Ah bah c'est royal.
Comme une envie de se mettre au vert, premier week-end de déconfinement en France, l'occasion d'aller voir la mer, la montagne ou même un carré de pelouse. Le tout, c'est de rester dans un rayon de 100 km. Peut-être prendrez-vous le train. Sachez que la SNCF scrute en permanence l'affluence dans les gares et dans les trains pour faire respecter les gestes barrières. Ce matin, moins de 3000 patients se trouvent en réanimation. Pour ceux qui en sont sortis, ça n'est pas la fin. Il faut souvent tout réapprendre, y compris à marcher.
Posez les pieds au sol.
Posez les pieds tranquille.
Prenez bien l'appui.
1, 2, 3,
reportage exceptionnel dans un centre post-réanimation des Hauts-de-Seine. Sanofi tente de mettre fin à la polémique. Tout sera fait pour que les États obtiennent le vaccin, mais les Américains qui financent la recherche pourraient tout de même être servis les premiers. Et puis les masques sont désormais obligatoires dans les transports, dans certains commerces. Pourquoi ne pas les rendre à la mode, comme le font certains fabricants marseillais?
À travers notre masque, il y a aussi la façon de parler des Marseillais. On voyait un masque avec marqué « t'approches pas fada », l'expression parle, c'est très humoristique et c'est très décalé.
À 7h40, qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Timothée Deroux, directeur général d'Abritel Homeway et président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances. À 8h15, ce matin, Sonia Mabrouk reçoit le docteur Hans Kluge, directeur Europe de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. 7h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après 2 mois passés entre 4 murs, il faut dire que c'est tentant. Monter dans une voiture ou dans un train et prendre l'air pendant tout un week-end, c'est désormais possible à une condition, ne pas s'éloigner à plus de 100 km de votre domicile. Ce soir, vous serez nombreux à partir, surtout si vous habitez dans les grandes villes. C'est ce que nous explique Carole Ferry.
Là où la demande est la plus forte, c'est bien sûr en Île-de-France, mais aussi autour des grandes villes comme Lyon ou Toulouse. Ce week-end, mais surtout le suivant, celui de l'Ascension. Encore faut-il trouver un endroit où aller. Pour le moment, seuls 20% des hôtels sont ouverts. Un seul relais château au Pays Basque, notamment parce que les restaurants sont toujours fermés. Il faut donc organiser des room service ou avoir un traiteur pas loin, pas évident. Alors il y a aussi les locations de maisons. Les gîtes de France ont vu exploser la demande autour de Paris depuis l'annonce du déconfinement. Après 2 mois enfermée dans son appartement à Paris avec son mari et ses 3 enfants, Anne-Laure Garin n'attend plus que ça, rejoindre la maison qu'elle a réservée près d'Evreux.
On est tombé sur une location qui est à 80 km de Paris, qui est une maison avec un grand jardin et une piscine. Ah bah c'est royal, enfin moi ça fait plus de 2 mois et je continue, où je fais du télétravail, je fais l'école à la maison, je fais cuisinière et je fais femme de ménage. J'en ai ras-le-bol. Et moi mon vrai trip c'est d'aller marcher pieds nus sur de la pelouse, de voir des arbres, de sentir l'herbe, voilà.
4 jours ouverts qui vont remplacer la semaine de vacances que la famille devait passer durant les vacances de Pâques en Italie.
Bonjour Sylvie Dubreuil.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes la propriétaire de l'hôtel Côte-Ouest au Sable d'Olonne. Votre hôtel sera ouvert ce week-end. Il rouvre après 2 mois de fermeture. Est-ce que vous avez déjà des réservations?
Oui, alors bon, on a ouvert les réservations il y a très peu de temps, mais c'est vraiment très positif. Aujourd'hui, on a simplement 11 chambres pour ce soir, mais on en est très fiers. Et 19 pour demain. Et les réservations se prolongent déjà jusqu'à fin mai. On a déjà beaucoup, beaucoup de réservations. Bien sûr, juillet, août, septembre, c'est parti.
Et sur un plan sanitaire, Sylvie Dubreuil, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place, modifier dans les conditions d'accueil de vos clients?
Alors, on travaille depuis plus d'un mois sur un protocole sanitaire. Et il y a 15 jours, on a présenté ça à la médecine du travail, à l'inspection du travail, pour être sûr que tout ce que l'on avait mis en place était conforme, non seulement pour notre équipage, ce qu'on appelle notre équipage, c'est tous nos collaborateurs, de façon à les rassurer, et également un protocole pour tous nos clients qui vont arriver maintenant. Donc tout est en place aujourd'hui, tout est en place, on a bien travaillé, on avait une validation, nos passagers vont pouvoir venir rassurer.
Simplement, Sylvie Dubreuil, une petite question pour ce week-end. Est-ce que tous les clients que vous allez recevoir sont dans le rayon de 100 km?
Oui, on s'y est vraiment penché. Et c'était une des premières questions que l'on posait. Et on trouve qu'il y a un grand civisme qui s'opère. Les gens sont très prudents, donc ils sont pas d'ailleurs inquiets. On les sent relativement ouverts et ils sont en demande de sérénité, d'espace, de...
Ils ont besoin de prendre l'air, évidemment. Évidemment, ils ont besoin de prendre l'air. Voilà. Et d'ailleurs, je lance l'appel ce matin. Dites-le nous au 39-21, votre programme, tout simplement, du week-end. Voir ce que vous arrivez à projeter sur les mois de juillet et d'août. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Merci Sylvie Dubreuil, merci d'avoir été l'invitée d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes la propriétaire de l'hôtel Côte Ouest au Sable d'Olonne en Vendée.
Il y a ce premier week-end déconfiné, les deux week-ends prolongés qui se profilent et puis les vacances d'été. Nous pourrons bien partir en vacances en juillet et en août. Édouard Philippe a rassuré pas mal de monde hier. La SNCF dans la foulée a annoncé l'ouverture dès ce matin des ventes de billets pour la période estivale.
La compagnie qui a par ailleurs mis en place pour l'ensemble de son réseau un poste de contrôle. L'affluence dans les gares et dans les trains est scrutée 24 heures sur 24. C'est vrai pour les grandes lignes, mais aussi pour les TER et les trains de banlieue qu'empruntent tous les jours les travailleurs. Reportage d'Élise Dangean.
Par exemple, sur l'écran qui est derrière moi, on voit qu'à la gare Saint-Lazare, en ce moment, il y a 1300 personnes, ce qui permet largement une distanciation.
Dans cette salle remplie d'écrans, 5 agents de la SNCF scrutent les images, les chiffres et les courbes. Ils surveillent l'affluence dans les gares et les trains en temps réel grâce aux caméras de vidéosurveillance. Il y en a par exemple près de 10 000 dans les gares d'Île-de-France, mais aussi grâce à un réseau de sentinelles, 700 agents déployés sur tout le territoire. Pouvoir s'adapter très vite, explique Mathieu Chabanel, directeur de la cellule.
Le système nous permet de repérer des situations qui pourraient être difficiles. Et derrière, soit on essaye d'y répondre en temps réel, par exemple en envoyant une équipe de sûreté de manière à mettre en place un filtrage. Et puis ça nous permet aussi, pour le lendemain par exemple, de dire « Ah ben, à cette heure-là, sur cette ligne-là, on a un problème d'affluence et donc c'est là où prioritairement on va essayer de mettre un train en plus de manière à ce que la journée suivante ça se passe mieux.
Mais l'adaptation a ses limites, l'entreprise ferroviaire appelle donc à poursuivre le télétravail.
Édouard Philippe s'entretiendra ce matin avec ses ministres pour faire un nouveau point sur l'épidémie. L'exécutif a les yeux rivés sur les courbes. Le bilan quotidien est reparti à la hausse hier mais les indicateurs les plus encourageants sont toujours là. Près de 60 000 personnes sont déjà sorties guéries de l'hôpital. Le nombre de patients en réanimation est toujours en baisse.
Et on a choisi ce matin de s'attarder sur cette épreuve pour les malades du Covid. Un peu plus d'un patient sur deux seulement ressort vivant d'un séjour en réanimation. Séjour qui laisse des traces. Il faut ensuite tout réapprendre.
Pour Europe 1, Victor Delande a pu se rendre dans le service post-réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.
Chaque fois qu'on lui enlève la ventilation pour respirer tout seul, Jacques souffre énormément. Il a passé 4 semaines dans le coma et depuis, cet homme de 69 ans doit tout réapprendre. Impossible d'écrire, ses mains tremblent trop. Il tente de parler, sa voix est à peine audible. Les aides-soignants l'installent sur un fauteuil. Chaque geste paraît insurmontable.
Posez les pieds au sol.
Posez les pieds tranquillement.
Prenez bien appui. Là.
Voilà. Tout le monde est prêt. 1, 2, 3. Poussez,
poussez. Debout.
Après cet effort, Vincent Delors, infirmier spécialisé en ventilation, le peigne. Dans quelques heures, ce patient a rendez-vous avec sa famille pour un premier appel vidéo.
C'est compliqué de voir un papa, un époux, une épouse, une maman qui a un trou dans la gorge et qui respire par un tuyau. Quoi. Donc si vous avez quand même préparé un peu... Il est coiffé, il n'est pas fatigué, c'est très rassurant.
Ce service de sevrage ventilatoire, c'est Hélène Prigent, physiologiste respiratoire, qui l'a mis sur pied pendant la crise. Et tous les jours, elle suit les petits pas des patients avec beaucoup d'émotion.
On a l'impression d'avoir un peu de la chance, parce que nous, on arrive à une période qui est très positive. C'est-à-dire qu'on aide les patients avancés, ils sont sortis de réanimation. Tous les petits progrès qu'ils font, on les accompagne là-dessus. On sait que ça renvoie aussi des choses très positives pour les collègues de réanimation.
Jean est un autre survivant, 42 ans, une carrure de rugbyman. Et pourtant, il n'a pas échappé à la maladie. Après 40 jours dans le coma, il termine sa rééducation, très reconnaissant envers le personnel hospitalier.
J'ai failli mourir. Les jours étaient comptés et les médecins ont fait un travail formidable. Moi, ils m'ont sauvé la vie.
Il doit sortir dans quelques jours et n'a qu'une seule crainte, que la population ne respecte pas suffisamment les mesures barrières et que les services de réanimation se remplissent à nouveau.
Un reportage de Victor Delande à Garches pour Europe 1. Il n'a pas encore été découvert, mais il fait déjà l'objet de toutes les convoitises. Le potentiel vaccin contre le coronavirus est au cœur d'une polémique. Depuis 48 heures, le laboratoire français Sanofi a laissé entendre que les Américains qui financent la recherche seraient privilégiés lors de la distribution. Le directeur général du labo a tenté l'apaisement hier soir en affirmant que tout serait mis en œuvre pour que les pays soient servis en même temps.
Le directeur de Sanofi, en tout cas, est convoqué par l'Élysée la semaine prochaine. Cette polémique autour de Sanofi est aussi un défi pour le président de la République. Il a placé la souveraineté économique au cœur de son projet de sortie de crise. On est en pleine contradiction, Michaël Darmon.
Et oui, hein, vous vous souvenez des mots d'Emmanuel Macron à Angers, hein, dans une usine de masques, hein, il faudra une rupture, reprendre le contrôle pour réduire notre dépendance. Il y a encore quelques jours, c'est Bruno Le Maire qui en remettait une couche en rappelant que le plan de relance prévu à l'automne encouragerait le patriotisme économique. Mais voilà, l'affaire des vaccins de Sanofi vient rappeler cruellement aux dirigeants français leur décalage entre les belles intentions et la réalité. Sanofi, qui appartient à plus de 60% à des actionnaires étrangers, bénéficie dans un secteur stratégique, celui de la santé, où la concurrence mondiale est extrêmement forte, de crédits impôts recherche en France et d'appui financier américain. Mais la grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est que lorsque les Américains font un deal, eh bien, il y a des conditions, contrairement aux Français. C'est là précisément que le bât blesse et qu'il est aujourd'hui pratiquement impossible d'imposer dans le business une quelconque souveraineté nationale. Actuellement, à l'Élysée, on phosphore, mais on hésite encore à mettre en place les dispositifs fiscaux et économiques pour réformer le droit à la concurrence et privilégier les groupes français et européens. C'est donc loin d'être gagné. Il faudra plus qu'une remontrance et leçon de morale du président de la République aux dirigeants de Sanofi pour changer réellement les choses et, comme le disait Emmanuel Macron, reprendre le contrôle de notre destin et rompre réellement avec le monde avant le coronavirus.
Le fait politique du jour, merci Michaël Darmon, et cette politique Sanofi, la réaction des Européens, on va en parler bien sûr à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit le docteur Hans Kluge, c'est le directeur Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Au moins 150 000 collégiens de 6e et de 5e rentreront en classe lundi prochain. Annonce du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sur TF1 hier soir. 4000 établissements classés en zone verte devraient ainsi rouvrir.
Europe 1. Vous restez sur Europe 1. Dans un instant, on parlera des États-Unis, pays le plus touché par l'épidémie, pays dans lequel le chômage atteint désormais un niveau inégalé depuis un siècle. A tout de suite. 7h13 sur Europe 1. Le bilan continue de s'alourdir aux États-Unis. Près de 1800 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. En tout, le coronavirus a fait plus de 85 000 victimes là-bas.
Il y a les victimes du coronavirus et puis les victimes de la crise économique. 36 millions d'Américains ont perdu leur emploi. C'est du jamais vu depuis la crise des années 30. Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré. Ces mauvaises nouvelles économiques ont fait chuter les marchés boursiers mondiaux.
Oui, vous savez, c'est désormais une certitude. Contrairement aux espoirs de Donald Trump, il n'y aura pas de rebond de l'économie américaine avant l'élection présidentielle de novembre. Lui-même, d'ailleurs, l'admet en promettant une fantastique reprise, mais pour 2021. Sauf qu'en attendant, la panne a des conséquences dévastatrices. Chaque semaine, le nombre de chômeurs augmente de 3 millions aux États-Unis, je dis bien par semaine. Nous en sommes, vous l'avez dit, à plus de 36 millions depuis le début de la crise. D'ici un mois, selon la Banque centrale américaine, 25% de la population devrait être au chômage, avec qui plus est une couverture réduite.
Et comment Donald Trump peut-il faire face ?
Ben, il est dans un piège. Aujourd'hui même, les démocrates vont présenter un nouveau plan de soutien de l'économie. Il y a deux jours, le patron de la Banque centrale avait lui-même dit qu'il fallait de nouvelles mesures d'aide. Mais les républicains qui contrôlent le Sénat n'en veulent pas. Trump est accusé d'un côté de ne pas avoir pris des mesures à la hauteur de la crise. L'envolée du chômage semble donner raison à ses adversaires. Mais il refuse de corriger le tir parce qu'une partie de sa majorité ne veut pas entendre parler d'une augmentation supplémentaire des dépenses publiques. C'est cette impasse qui explique la rechute des marchés boursiers. Une mauvaise nouvelle de plus pour Donald Trump qui a fait du Dow Jones l'étalon de sa politique économique.
Merci, c'était l'éclairage éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. Le caractère antisémite doit être retenu dans l'affaire Mireille Knoll, c'est ce que réclame le parquet de Paris. Cette femme juive de 85 ans a été tuée en 2018 dans son appartement parisien.
C'est un accessoire qui doit nous permettre de gérer plus sereinement le déconfinement, accessoire que certains ont décidé de mettre à la mode.
On va parler des masques bien sûr, car quitte à en porter, autant les apprécier. Il y a ceux qui les préfèrent plutôt sobres, et puis d'autres qui à l'inverse envoient carrément des messages. C'est le cas à Marseille où certains fabricants rivalisent d'humour et d'imagination. Reportage de Nathalie Chevance.
Je crains des gains, t'approches pas Fada, mais fille, j'ai le skinfus, fini les gâtés.
Et voilà quatre expressions bien marseillaises qui s'affichent désormais sur des masques aux normes AFNOR fabriqués en France. Fini les gâtés, plus de câlins, portés dans la rue, effet garanti.
Ça décontracte un peu les... l'ambiance, on en a besoin, je crois, en ce moment. Ça décompresse.
Se protéger tout en affichant son identité, celle du Sud, et le sourire dans les yeux, c'est l'objectif de David Darmon Bonifaci, créateur.
Quand on voyait un masque avec marqué « t'approches pas Fada », ça va très bien avec le masque parce que l'expression parle, c'est très humoristique et c'est très décalé. À travers notre masque, il y a aussi la façon de parler des Marseillais et c'est le sourire. Donc on l'affiche avec un masque.
Le masque devenu indispensable et qui devient aussi le reflet de notre personnalité, Gina Luciani, présidente de la Maison de la Mode.
Sur le long terme, ça pourra être des masques collector et plus le masque est original et plus on aura d'expression. D'une certaine manière, c'est un accessoire, comme porter un sac, porter des chaussures particulières, de mettre un masque en toute situation, même à la plage.
Et d'ailleurs, pour cet été, certains créateurs ont déjà pensé au maillot de bain avec masque assorti. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
L'histoire ne dit pas s'il est parti avec un masque estampillé Marseille ou non. En tout cas, le directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta, quitte le club, ce qui ouvre une grande période d'incertitude. L'entraîneur Villas-Boas pourrait lui aussi quitter la cité phocéenne.
Merci Marguerite Lefebvre. C'était le journal de 7h sur Europe 1. À 7h30, on va retrouver Jérôme Lacroix.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et tous les matins, nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui répond à vos questions. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Hashtag radio ouverte pour nous écrire. La ruée des Français sur les tests sérologiques, cette question, faut-il se faire tester ?
Alors oui, c'est vrai, je constate en consultation une augmentation des demandes de sérologie avec une phrase qui revient souvent, j'aimerais savoir si je l'ai eu. Alors plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que ce test n'est pas remboursé, il coûte une quarantaine d'euros car il n'est pas encore validé, mais ça ne semble pas être un obstacle pour les patients. Ensuite, on sait que 4,4% de la population a eu le coronavirus. Ça veut donc dire que vous avez 95% de chances d'avoir une sérologie négative. Et puis même, si celle-ci revient positive, on ne sait absolument pas si les anticorps qui vont être détectés dans cette sérologie seront protecteurs. En revanche, ils sont intéressants dans une stratégie de diagnostic. Vous avez une suspicion de coronavirus, vous allez voir votre médecin qui prescrit un test PCR. Celui-ci revient négatif. Or, votre médecin est persuadé que vous l'avez. Et bien, dans ce cas-là, une sérologie pourrait être intéressante pour le suivi en ville et pas de façon rétrospective. On peut aussi l'utiliser à l'hôpital et pour les données épidémiologiques, mais ça n'a pas un très grand intérêt à l'échelle individuelle de se faire tester.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed que vous retrouvez sur Europe 1. Toutes les heures, il répond à vos questions et puis de 15h à 16h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. C'est l'heure de l'innovation avec Anissé Mbida, 7h18. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le confinement a installé de nouvelles pratiques. Le télétravail, la visioconférence, mais aussi des astuces pour regarder des séries en même temps, chacun chez soi. Jusqu'ici, c'était un peu compliqué. Les plateformes l'ont bien compris et ça va devenir beaucoup plus simple.
Oui, bientôt sur Netflix, Amazon et consorts, il y aura une option qui permettra de regarder un film ou une série à plusieurs, mais à distance. Ça va fonctionner un petit peu comme les apéros visio auxquels vous avez peut-être participé. Donc, on prend rendez-vous, chacun se connecte à l'heure dite, en visioconférence, et puis l'écran se divise en deux, avec sur le côté, en vignette, les visages de chacun des participants, et une petite fenêtre dans laquelle on écrit ses commentaires, et sur le reste de l'écran, le film ou la série qu'on veut regarder. Il y a déjà des programmes comme Netflix Party, Rêve ou Sinner qui proposent quelque chose d'équivalent, mais vous l'avez dit, c'est pas toujours évident à mettre en place. Là, tout va être intégré, automatisé et parfaitement synchronisé.
Et qui va contrôler la lecture ? Je veux dire, simplement, il y en a un, peut-être, qui veut aller aux toilettes. Est-ce qu'il pourra faire une pause ?
Oui, tout le monde aura le contrôle. N'importe qui pourra revenir en arrière, avancer, faire pause. Tout sera parfaitement synchronisé. En revanche, chacun devrait être abonné à la plateforme, donc malheureusement, on peut pas inviter qui on veut.
Et on sait quand ce sera disponible ?
Alors les tests démarrent tout juste chez Netflix et HBO aux États-Unis, donc il faudra attendre encore quelques mois. Mais ça commence maintenant chez Amazon Prime Video avec le service Twitch, vous savez, celui où on regarde les autres jouer aux jeux vidéo. Ça s'appelle Watch Party et on pourra même échanger avec des célébrités qui vont commenter un film ou une série en direct. C'est un peu le côté positif de cette crise, elle dope l'innovation et elle permet d'inventer de nouvelles interactions entre les uns et les autres.
Merci Anissé Mbida, l'innovation tous les matins, juste après le journal de 7h sur Europe 1. L'édito sport de Virginie Fulpin dans un tout petit instant. Et le monde bouge avec Axel de Tarlet. Un peu de pédagogie ce matin. Arrêtons-nous sur ce qu'a dit le Premier ministre. Pour sauver l'industrie du tourisme, l'État va apporter des fonds propres. Que sont ces fonds propres ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La nature de cet investissement, puisque c'est un investissement. A tout de suite.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito sport de Virginie Fulpin dans un tout petit instant. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On va reparler ce matin de Didier Gayaguet qui refuse de démissionner du comité olympique. C'est l'édito sport, c'est dans un instant. Mais d'abord Axel de Tarlet. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Le monde bouge. Le monde bouge et une petite leçon d'économie ce matin. Le gouvernement a annoncé hier qu'il allait aider les entreprises du tourisme en leur apportant des fonds propres pour 1,3 milliard d'euros. Des fonds propres. Axel, c'est quoi ? Quelle différence avec le PGE par exemple, le prêt garanti par l'État ?
Eh bien écoutez, un prêt, ça se rembourse. Alors que des fonds propres, ça ne se rembourse pas. Vous voyez, c'est magique. Et pour cause, la personne qui apporte de l'argent en fonds propres devient en partie propriétaire de l'entreprise. Donc si l'entreprise marche, bah, en tant que propriétaire, vous récupérez une partie des bénéfices. Et si ça ne marche pas, vous n'avez rien. Alors qu'un prêt, que vos affaires soient bonnes ou mauvaises, il faut toujours rembourser à toutes les échéances. C'est pour ça que l'État veut apporter des fonds propres. Vous voyez, c'est de l'argent plus solide. On ne vous demande pas de le rembourser. En fait, cet argent permet d'investir pour le temps long, en espérant à terme, pour l'État, un retour sur investissement. En fait, vous devenez un actionnaire qui espère un dividende. C'est exactement la même chose.
Axel, je comprends. Concrètement, si l'État aide un camping en fonds propres, l'État va devenir actionnaire de ce camping. Donc il y aura chaque année une part des bénéfices du camping dans les caisses de l'État ?
Exactement. Alors c'est pour ça que pour aider en fonds propres, ça a plus de sens quand il s'agit de grosses structures. Par exemple, vous avez reçu lundi, Mathieu, le patron de la Banque des Territoires, hein, Olivier Sichel.
Oui, qui va nous révéler ce plan tourisme, hein, sur Europe 1 lundi matin.
Exactement, et il donnait l'exemple, il disait qu'il allait apporter en fonds propres 10 millions d'euros au Futuroscope, souvenez-vous. Bah donc ça veut dire que l'État va devenir en partie propriétaire du Futuroscope. Mais oui, c'est théoriquement aussi possible pour un camping. Alors même si pour aider un camping en fonds propres, il existe pour les petites structures des outils financiers plus souples qui permettent d'apporter de l'argent en fonds propres sans pour autant devenir propriétaire. Vous voyez, on ne va pas nationaliser les campings de France. Mais voyez, l'idée avec ces fonds propres, c'est bien d'accompagner sur le long terme ces acteurs du tourisme exactement comme le ferait un investisseur privé.
Merci Axel de Tarlé. On y voit plus clair grâce à vous. Le monde bouge Axel et vous le racontez tous les matins sur Europe 1. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin à présent. Didier Gayaguet refuse de démissionner du CNOSF. Il a participé au conseil d'administration du comité olympique comme si de rien n'était hier. Pourtant, il avait dû quitter la présidence de la Fédération des sports de glace, vous vous en souvenez, en pleine affaire de violences sexuelles il y a 3 mois. Pour vous, Virginie, il ne doit plus faire partie du comité olympique tant que l'enquête n'est pas terminée.
Oui, avec la crise sanitaire, on s'est tous promis de devenir meilleurs, de changer de comportement pour dessiner un nouveau monde. Tous ? Non, regardez, il y a un homme qui résiste là-bas, c'est Didier Gayaguet. Lui, confinement ou pas, il n'a pas bougé d'un iota. Il s'accroche au monde d'avant autant qu'à son strapontin. Il y a 3 mois, il avait déjà fallu du temps pour qu'il quitte la présidence de la Fédération des sports de glace. Alors que les témoignages des patineuses se multipliaient sur des scandales de violences sexuelles et qu'on lui reprochait d'avoir délibérément fermé les yeux pour protéger ses amis. Certes, il a le droit de se défendre, évidemment. Une enquête est actuellement en cours de la part de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Mais comment peut-il rester en place le temps de cette enquête ? Quelle image ça renvoie du comité olympique et quel message on envoie aux patineuses agressées. Alors Didier Gayaguet use toujours de la même méthode, il attaque. Et pour ça, il prend la plume plus facilement que la porte. L'enquête à la Fédération de patinage, il écrit pour mettre en doute ses conditions d'indépendance et d'impartialité. Le comité de déontologie du CNOSF considère que sa présence nuit à l'image du mouvement sportif. À la veille du conseil d'administration, il écrit aux membres du comité pour expliquer qu'il ne se laissera pas faire sans se défendre et qu'il réclame un peu de décence. Oui, vous avez bien entendu, de la décence. J'aurais bien pris 2 secondes pour en sourire, mais ça me reste un peu en travers de la gorge.
Alors cela dit, rien ne l'oblige à démissionner du CNOSF.
Bah rien, à part la morale et le sens des responsabilités peut-être, mais visiblement ça n'est pas une priorité. C'est très efficace la méthode Didier Gayaguet. Il a traversé beaucoup de crises au fil du temps à la Fédération des sports de glace, avant de s'effacer bruyamment. Et là, le président du CNOSF, Denis Masseglia, qui réclamait son départ, a changé d'avis. Maintenant, il considère que la décision appartient à Didier Gayaguet et il se cache derrière les statuts pour expliquer que rien ne l'oblige à quitter son poste. Pour lui, le mouvement sportif a bien d'autres chats à fouetter et doit participer à la renaissance du pays. Mais non, justement, c'est en coupant les ponts avec les habitudes néfastes qu'on doit renaître, pas en reproduisant indéfiniment les mêmes erreurs. Ça fait 4 jours qu'on est déconfiné et cette histoire me donne l'impression qu'on a déjà tout oublié.
Merci Virginie Fulpin. Pour le coup, c'est vrai que ça paraît loin. Cela dit, on n'oublie pas et Virginie Fulpin vous en parle ce matin. C'est l'édito sport tous les jours sur Europe 1 à 7h25. Vous écoutez, vous réagissez, vous partagez. N'hésitez pas, 7h26.
Europe 1.
Dans quelques petites secondes, un nouveau journal, ce sera avec Jérôme Lacroix. La météo de Laurent Cabrol avant cela. Bon réveil.
Mathieu Béliard.
Il est 7h27 sur Europe 1. C'est tout nouveau. C'est sorti à 6h du matin tout à l'heure. Daisies, titre et clip de Katy Perry, chanson publiée à 6h du matin tout à l'heure. C'est tout nouveau, on n'a toujours pas de date pour le nouvel album qui est en préparation de Katy Perry. On en écoute quelques notes ce matin pour se réveiller sur Europe 1. Those sticks and stones showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, trying to kill me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy. Katy Perry qui attend un bébé. Alors je ne rentre pas dans le carnet rose d'ordinaire, mais elle a publié une story de son échographie sur Instagram avec un message. Elle écrit: quand ta fille qui n'est pas encore née te fait un doigt d'honneur depuis ton utérus, tu sais pourquoi tu es là. Voilà pour les nouvelles de Katy Perry. On attend l'album Daisies, c'est tout nouveau, c'est sûr, vous allez l'entendre. Tiens, vous vous souviendrez, vous l'avez entendu sur Europe 1 pour la première fois. 7h29, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et l'heure des orages, parce que je n'en ai pas suffisamment parlé des orages, quelques orages. Je n'en ai pas suffisamment parlé depuis ce matin. Il est vrai que sur l'Occitanie en particulier, dans le Tarn, l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, mais aussi sur l'Hérault, sur le Gard, sur le Vaucluse, etc. Enfin, dans toutes ces régions qui sont dans l'extrême sud, il n'est pas impossible qu'en fin de journée, il y ait des orages parfois violents. Donc, on n'en connaît pas encore la sévérité, puisqu'ils ne se manifestent réellement qu'à partir de midi. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on s'en saura s'ils sont méchants ou pas, mais on en reparlera bien entendu. Mais enfin, dans toutes les régions du Midi, il y a et il y aura un temps très agité, et ce sera le cas également sur la Provence, les Alpes, les Cévennes et la Franche-Comté. Un temps moyen, si vous voulez, avec mélange d'éclaircies, de quelques rayons de soleil sur l'Aquitaine, le Massif central, le Dijonais, l'Alsace, et puis le soleil. Soleil de mon pays, si bon, ou sur le littoral de la Manche, sur les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le centre, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Lorraine. Il fera beau avec des températures de 15 degrés à Brest, 16 à Vesoul, 17 à Besançon, 17 à Lyon, 18 à Bourges, 19 à Paris et 22 à Marseille.
Allez. Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Et Jérôme Lacroix est avec nous en studio. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
7h30 sur Europe 1, un nouveau journal.
Donc là, par exemple, bah voilà, on a tout ce qui est t-shirt, chemisier ensemble, tous les tops. Ça permet à la cliente de voir plus clair et d'aller tout de suite à l'essentiel.
Un week-end déconfiné et conflit d'intérêts pour les commerçants. Rideaux enfin levés et bras ouverts, ils apprêtent leur boutique pour vous qui êtes en repos et plus libre dans vos déplacements. Quand les séances de test remplacent les séances plénières, reportage à Strasbourg, certains locaux d'un Parlement européen déserté servent désormais à des tests PCR. Et puis le veto de Gérard Larcher, pas favorable au vote du Parlement sur la date du second tour des municipales. Révélations et explications dans ce journal d'Aurélie Herbemont. Votre invité après journal, Mathieu.
Les Français pourront partir en vacances cet été. Annonce d'Edouard Philippe hier, ça vous a peut-être rassuré. Timothée Deroux, directeur général d'Abritel HomeAway et président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances. C'est mon invité juste après ce journal. 7h31, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a tous un petit peu ce matin de la fuite dans les idées au seuil d'un premier week-end déconfiné. Ça faisait de moi une longue sortie, un petit voyage, mais pas au-delà de 100 km de la maison. Ou sinon, pourquoi pas faire les boutiques. Les magasins sont ouverts et ils n'attendent que vous après 2 mois d'arrêt. Reportage Hélène Terzian, quartier Saint-Lazare à Paris.
Il faut tout donner là et il faut faire du chiffre. Oui, oui, il faut tout rattraper là, les 2 mois là. C'était pas des vacances, donc du coup, on rattrape tout.
Elle porte son masque certes, mais elle a surtout retroussé ses manches. À l'image de ses concurrents, Kelly, responsable de boutique de prêt-à-porter, affiche les promotions alléchantes au mur. Elle a aussi rangé ses étagères comme en période de solde.
Donc là, par exemple, bah voilà, on a tout ce qui est t-shirt, chemisier ensemble, tous les tops. Ça permet à la cliente de voir plus clair et d'aller tout de suite à l'essentiel. Ça lui permet aussi d'avoir un instant shopping un peu plus court que d'habitude. C'est sélectionner plus rapidement ses coups de cœur.
Avec ce premier week-end déconfiné en ligne de mire, les commerçants multiplient les appels et SMS à leurs clients, passent par les réseaux sociaux pour les rassurer sur les mesures sanitaires. Manon mise aussi sur les vitrines chatoyantes de sa boutique de décoration.
On a sorti de la papeterie sur le thème des fleurs, le soleil, les arcs-en-ciel, les abeilles, les papillons, enfin voilà. Semaine prochaine, on va à nouveau changer la vitrine, on essaie de vraiment donner vie à la boutique plus que d'habitude. Ouais.
Et pour compenser la perte d'espace dans les magasins à cause des mesures barrières, la mairie de Paris compte à certains endroits libérer des places de stationnement pour y organiser des files d'attente.
Réserver un billet de train pour l'été, c'est possible depuis ce matin. Échangeable ou remboursable, sans frais, le gouvernement encourage les réservations pour sauver la saison touristique. Nous mettons tout en œuvre pour que l'ensemble des pays soit servi. En même temps, les mots hier soir sur France 2 de Serge Wimbert, le président de Sanofi, après qu'avant-hier, le directeur général du laboratoire a affirmé que les États-Unis bénéficieraient en premier d'un éventuel vaccin parce qu'ils financent davantage.
Un vaccin doit rester un bien public mondial, extrait des lois du marché. Réaction hier de l'Élysée, Emmanuel Macron doit recevoir le directeur général de Sanofi mardi prochain.
La baisse toujours du nombre de patients à l'hôpital et en réanimation, plus de 59 600 personnes guéries pour un peu plus de 27 400 décès, dont plus de 10 000 désormais dans les EHPAD.
L'évolution de l'épidémie, de mieux en mieux suivie grâce notamment aux tests plus nombreux. Les services de santé en effectuent même dans les endroits les plus inattendus.
Au Parlement européen, à Strasbourg, vide depuis des semaines, les eurodéputés privilégient Bruxelles et dans certaines salles, eh bien place désormais aux blouses blanches et aux écouvillons pour des tests PCR. Arthur Mbaché.
Donc je vais en fait enfoncer une espèce de coton-tige dans chaque narine l'une après l'autre.
Ceci n'est pas une conversation mal, entre un lobbyiste et un eurodéputé.
Ça fait pas mal, mais c'est pas agréable.
C'est vrai que nous sommes au Parlement européen.
Il faut pas secouer la tête, il faut pas mettre la main pour m'empêcher de réaliser le geste.
Mais nous sommes avec Christophe, infirmier dans un laboratoire strasbourgeois.
Et j'y vais, hein.
Et Laurent, émerveillé, coton-tige à peine sorti de la zone nasopharyngée.
Genre on entend le Parlement, 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 c'est un truc qu'on n'y a pas accès à la base. Alors d'y pénétrer, c'est vrai que c'est nouveau.
Bonjour monsieur, venez.
Les surblouses, les masques, les écouvillons à la place des cravates, des tailleurs et des fourchettes. Bienvenue à la cantine du Parlement de Strasbourg.
Dans tout ce qu'on a pu visiter, c'était tout de suite notre premier critère de choix, pas de moquette.
Pas de moquette, pas facile à trouver dans le cossu bâtiment strasbourgeois, dit Stéphanie Jégui de l'ARS.
La cantine, en termes de surface aseptisée, c'était quelque chose de pas compliqué en termes d'aménagement.
Ici sont reçus sur ordonnance les cas contacts repérés par les fameuses brigades de la sécurité sociale, uniquement des asymptomatiques qui ont donc fréquenté des malades. Pour accueillir les gens à l'extérieur, les pompiers, intraitables sur les gestes barrières.
Vous avez une pièce d'identité ?
Oui.
Stop, stop.
Capacité théorique du plus grand centre de tests Covid du Grand Est, 2400 patients par jour. Pour l'instant, c'est plutôt quelques dizaines. Strasbourg, Arthur Npaché, Europe 1.
Le deuxième tour du scrutin municipal reporté pour cause d'épidémie va-t-il se tenir comme prévu en juin ou sera-t-il encore déclaré ? Édouard Philippe attend l'avis du Conseil scientifique dans les prochains jours.
L'exécutif envisage un vote au Parlement pour validation de la date, sauf que, et vous nous révélez l'information ce matin, Aurélie Herbemont, ce scénario du vote ne convient pas à Gérard Larcher, le président du Sénat.
Gérard Larcher l'a dit à Emmanuel Macron lors de leur déjeuner à l'Élysée. Il n'est pas favorable à un vote du Parlement sur la date du second tour. L'argument du président du Sénat, il y a déjà une loi qui prévoit le second tour fin juin ou la nécessité de refaire les deux tours plus tard si la situation sanitaire l'exige. Au gouvernement de décider, dit un de ses proches. Il faut dire que cette idée de faire voter les assemblées est guidée par la volonté d'avoir un consensus politique, mais n'est pas dénuée d'arrière-pensée, ce qui n'a sans doute pas échappé à Gérard Larcher. Le gouvernement veut éviter de revivre le fiasco qui avait entouré le premier tour et partager la responsabilité avec l'opposition. Le 15 mars, ils nous ont reproché de ne pas les avoir consultés. Et maintenant, ils vont nous reprocher de les consulter, ironise un ministre. Voter, c'est prendre ses responsabilités, fait-on valoir à Matignon, où on attend avant tout l'avis du Conseil scientifique pour décider de faire voter ou pas le Parlement.
Les informations pour Europe 1 d'Aurélie Herbemont.
Vous avez peut-être cette chance, une plage à moins de 100 km de chez vous pour en bénéficier. Elle rouvre de plus en plus, notamment en Gironde. Feu vert de la préfète Fabienne Bouchiot en réponse à 20 maires de communes du littoral, mais sous conditions.
Nous sommes tombés d'accord avec les maires. Toutes les plages de notre département pourront ouvrir dès samedi matin, 6h. 6h, 19h. On n'est pas allé au-delà de 19h pour éviter les rassemblements festifs sur la plage. Au départ, on était sur l'idée de 9h le matin. Mais vous voyez, en discutant, on a évolué, on est passé à 6h pour prendre en compte les gens qui veulent faire leur footing, les gens qui veulent prendre la vague. Donc tout ça, je l'ai entendu, compris et accepté. Ça sera ce qu'on appelle une plage dynamique. C'est des plages où on doit rester actif. C'est pas des plages où on s'installe pour bronzer. posées. Les maires ont prévu vraiment une organisation avec des contrôles d'entrée sur la plage, avec le rappel des gestes barrières. On est plutôt dans la pédagogie, mais s'il y a des cas flagrants, ils seront verbalisés. 135 euros.
La préfète de la Gironde, au micro européen de Stéphane Place.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30. À 8h, nous retrouverons François Geffrier pour une nouvelle édition tout à l'heure. Merci beaucoup. 7h37.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct avec le directeur général d'Abritel, président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances. Bonjour Timothée Deroux.
Bonjour David Béliard.
Mathieu Béliard. David Béliard a perdu au municipal. Je me permets juste pour pas qu'on confonde.
Excusez-moi.
Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. On n'est juste pas de la même famille. J'y tiens. Le Premier ministre a annoncé hier que nous pourrions partir en vacances, partir en France en juillet et en août. Alors déjà depuis l'annonce, est-ce qu'on mesure des effets de cette annonce ? Est-ce que vous avez plus de fréquentation de réservations depuis hier midi sur votre site ?
Alors on ne peut pas parler d'un boom des réservations depuis hier après-midi, parce que l'annonce, elle date effectivement de midi hier. C'est une très bonne nouvelle de savoir que les Français vont pouvoir partir en vacances en juillet et en août. Ce qu'on a vu sur nos sites, c'est une très forte augmentation des recherches, mais déjà depuis quelques semaines, parce que c'est vrai que la location de vacances, c'est un hébergement qui va permettre de se retrouver dans un lieu privé, en famille, de respecter les distanciations sociales, tout en limitant les interactions à l'extérieur dans les espaces publics.
Pas encore de données, y compris sur la fréquentation du site, parce qu'on est tous un peu curieux en ce moment, on commence tous à faire quelques recherches.
Si, si, la fréquentation du site, elle augmente progressivement. Et c'est vrai qu'elle a augmenté un peu hier. Et ce qu'on pense, c'est qu'on va voir les réservations arriver dès ces jours-ci, dès ces prochains jours.
Alors sur le contenu des recherches à présent, je vois des classiques. Le bord de mer, bien sûr, mais la tendance, apparemment, c'est la maison toute simple, familiale, avec piscine.
Oui, absolument. En fait, ce qu'on voit, c'est que bon, les destinations traditionnelles de location de vacances, elles sont toujours recherchées. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les vacanciers cherchent des maisons individuelles, si possible avec un grand jardin. Et s'il y a comme équipement une piscine, c'est encore mieux. Et ça, c'est effectivement très demandé.
On veut voyager, mais rester à la maison, en fait. Rester en famille, pas trop forcément voir de monde.
Oui, exactement. C'est ce que je disais. C'est très rassurant pour une famille ou pour un groupe d'amis d'être dans un lieu privé, de limiter les interactions sociales à l'extérieur, même si on est quand même obligé de sortir quelquefois. Et c'est d'ailleurs très bien. Mais en fait, on veut rester ensemble dans une maison, profiter de bons moments, avoir une expérience en famille, avec un jardin, une piscine, pour passer de bonnes vacances, oui.
Est-ce que les locataires ont des demandes particulières, des questions qu'ils vous posent ?
Oui, en fait, les locataires souhaitent savoir d'abord si les maisons ont bénéficié d'un protocole sanitaire, si les conditions d'annulation sont flexibles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un protocole sanitaire pour l'ensemble, d'ailleurs, du secteur de la location de vacances. Toutes les plateformes peuvent en bénéficier. Ce protocole, il a été vérifié par une société, O2 Care Service, qui est certifiée AFNOR. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et nous avons demandé à l'ensemble de nos propriétaires de le respecter, afin de rassurer les vacanciers. Et par ailleurs, une autre chose qui est très importante, c'est les conditions d'annulation. Nous avons poussé nos propriétaires à mettre en place des conditions d'annulation les plus flexibles possibles pour qu'en cas de problème, les vacanciers puissent annuler.
Je vais y revenir, mais d'abord sur les conditions sanitaires justement et ce protocole sanitaire que vous mettez en place. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que tous les petits propriétaires vont le respecter ? Et deux, est-ce que vous pouvez entrer un peu dans le détail sur ce qui sera fait ?
Oui, alors d'abord, comment est-ce qu'on peut s'en assurer ? On a des partenaires, des agents immobiliers sur nos sites qui, eux, vont vérifier que les propriétaires l'appliquent. Et puis pour les propriétaires individuels, on ne peut pas le vérifier évidemment, mais eux ont intérêt à l'appliquer parce que les vacanciers vont venir dans ces maisons et si ces maisons ne sont pas impeccablement désinfectées, ils vont mettre des avis qui ne seront pas forcément positifs et les maisons, après, elles seront plus louées, elles seront tricardes, comme on dit. Donc les propriétaires ont tout intérêt à appliquer ce protocole s'ils veulent rassurer les vacanciers et s'ils veulent qu'ils louent leur maison. Et nous, on mettra en avant les propriétaires qui se sont engagés sur l'honneur ou dont on a pu vérifier qu'ils ont appliqué ce protocole.
Comment, de quelle manière vous les mettrez en avant sur le site ?
Il y aura une sorte de labellisation des propriétaires qui ont respecté ce protocole sanitaire.
Validé par l'AFNOR, vous le précisiez, donc très normé. Il y a aussi donc les possibilités d'annulation, de rétractation, parce que évidemment, on réserve, on engage des frais, on a toujours un doute, deuxième vague, reconfinement, sur ce point-là, on peut réserver sans avoir peur de perdre ce que l'on a versé.
Oui, absolument. En fait, les conditions d'annulation, nous avons poussé nos propriétaires à les rendre le plus flexibles possible. Et puis, de toute façon, il y a eu une ordonnance du gouvernement qui a été votée fin mars et qui permet, en cas d'annulation en raison du Covid, de récupérer soit un avoir, soit un remboursement intégral du prix de sa prestation. Et ça concerne d'ailleurs tout le secteur touristique, pas uniquement la location de vacances.
Y a-t-il des réservations multiples? Des petits malins qui peut-être en ce moment se disent « Tiens, je vais bloquer celle-là, bloquer celle-ci et puis on choisira après ».
Bah, ça arrive toujours, mais je dirais que ce n'est pas la préoccupation principale des Français aujourd'hui.
Cela dit, on a aussi vu des annulations du côté des propriétaires eux-mêmes. Là, je ne parle pas forcément du mois de juillet, du mois d'août, je parle peut-être plus du week-end qui arrive, celui de l'Ascension derrière, et eux, après avoir été confinés, se disent qu'ils profiteraient bien de leurs biens.
Oui, c'est vrai que les Français veulent profiter de leur résidence secondaire.
Vous le voyez, ça aussi, des propriétaires qui, eux, ont annulé une réservation qui était faite?
Non, pas vraiment. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup de vacanciers. Il y a eu pas mal d'annulations sur les week-ends de mai, parce qu'à un moment, on a cru qu'on pourrait partir en mai. Et en fait, c'est extrêmement compliqué de partir au-delà des 100 km. C'est même interdit jusqu'à fin mai.
Pour le moment, on cherche encore, on cherche encore assez près de chez soi. La nouvelle d'hier, midi 8, hein, la dépêche, les Français pourront partir en France. Pour l'instant, on a encore sécurisé, on cherche dans sa région.
Oui, absolument. On voit des recherches pour les week-ends qui viennent, dans la limite des 100 km. Ce sont en général des citadins qui ont besoin de souffler après 2 mois de confinement et de partir le week-end à la campagne.
Un mot des prix. On sait que le secteur est en difficulté, qu'il va falloir relancer l'activité tourisme. Et c'était aussi le propos du Premier ministre hier, ce plan tourisme massif. Est-ce qu'il y a une évolution en ce moment sur les prix à la baisse, à la hausse, je ne sais pas?
Alors nous, on ne constate pas d'évolution des prix à la hausse ou la baisse, on constate une stabilité. Ce qu'on pense, c'est que les prix vont rester stables pour deux raisons. D'abord parce que les étrangers vont peu ou pas venir en France et donc il va falloir compenser ça par d'autres locations. Donc les propriétaires n'ont pas intérêt à augmenter leurs prix. Et puis par ailleurs, la plupart des propriétaires sont des propriétaires individuels qui ne cherchent pas à faire de l'argent. En fait, ils louent leur maison pour rembourser les frais d'entretien de cette maison précisément.
Merci beaucoup Timothée Deroux.
Merci Mathieu Bellegarde.
Il n'y a pas de problème. Timothée Deroux, merci beaucoup, directeur général d'Abritel HomeAway et président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances. Simplement pour vous situer dans le secteur, Abritel plus Airbnb, c'est 14% du marché. Les acteurs de l'actualité en direct le matin avec nous. Il est 7h45. Europe 1. À 8h30 ce matin, nous allons parler de votre week-end, votre premier week-end déconfiné. Quel est le programme? Amis, famille, apéro virtuel ou apéro en vrai maintenant? Ou comme certains, est-ce que vous allez prendre l'air, vous éloigner un peu de chez vous pour voir autre chose, voir la mer pour ceux qui peuvent? Allez, je vous pose la question, dites-le franchement. Est-ce que vous respectez scrupuleusement la distance de 100 km autour de votre domicile? Appelez-nous pour témoigner ce matin au 3921. Racontez-nous votre week-end. Partagez aussi vos idées sur le hashtag Radio Ouverte. Bien sûr, nous serons entre 8h30 et 8h45 avec Vanessa Zah, journaliste à Europe 1, spécialiste du tourisme, pour vous donner quelques petits conseils. Et je vous attends en particulier en direct avec nous à l'antenne au 3921, 7h45.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Bellia.
Un édito tous les matins avec vous, Nicolas Bétou, bonjour.
Bonjour Mathieu.
L'opinion de Nicolas Bétou tous les matins, avant 8h, c'est dans quelques instants. D'abord, le rendez-vous culture d'Europe 1. Sur Europe 1 tous les matins, on retrouve Périscope, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et la chanson sort ce matin, Jean-Philippe. Elle est pour le Secours Populaire, c'est le retour de M, Mathieu Chédid.
Crois au printemps, c'est le titre de cette nouvelle chanson. Et nous avons passé un coup de fil à Mathieu Chédid.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment.
Bonjour Mathieu Chédid.
Bonjour.
Crois au printemps, c'est une chanson plutôt optimiste.
Déjà, c'est une chanson qui a été écrite par un ami boulanger, qui a vraiment l'art des mots, qui vit à Cucugnan, qui s'appelle Roland Feuillasse et qui... fait un pain incroyable avec une farine ancienne et tout ça, enfin, c'est toute une histoire. Et cette personne m'a fait prendre conscience, entre autres, que croire en la vie, de croire en l'amour, c'est peut-être ça la clé, quoi. Et voilà, et à partir de là, je l'ai habillé, ce texte, je l'ai habillé de plusieurs musiques, jusqu'au moment où j'ai trouvé cette musique la plus simple, la plus entraînante possible, la plus pure. Et par la suite, j'ai demandé à mes frères et sœurs, à ma famille, de chanter aussi dessus pour ramener encore plus d'amour et d'harmonie.
Comme on croit au printemps, croit pour la vie,
Alors Mathieu Chédid, vous avez donné beaucoup de mini-concerts comme ça pendant le confinement et vous aviez l'air à chaque fois très tranquille, très détendu.
Je crois que c'est ma grand-mère aussi, mes parents, sûrement qui m'ont légué ça, d'arriver toujours à voir le beau côté des choses. Et ça, c'était une chance inouïe de pouvoir faire ces petits concerts virtuels, parce que ça permet de transcender parfois ces moments à fleur de peau, ces moments de questionnement, et de le partager.
Fixant sa photo, son regard m'hypnotise. Alors qu'il est parti, sautant, je réalise.
Et parmi tous ces moments, Mathieu Chédid, moi je me souviens d'un duo avec votre fille, Billy. C'était dans la cuisine et c'était sur une adaptation d'une chanson de Prince.
Je m'en souviens bien, c'était effectivement un petit brunch à la maison, comme ça, un peu délirant. Ouais, c'est des moments magiques de partager ça en famille avec avec sa fille.
Soudain, il neige en avril. Soudain, je me sens si mal, si mal.
Ça a été vraiment ce confinement, voilà, c'est aussi ça. Ça permet des choses que je n'aurais jamais vécues. Ni seul, ni avec ma fille. Et ça, c'est vrai que c'est les bons côtés de ce moment étrange.
Merci beaucoup, Mathieu Chédid.
Merci à vous.
Te souviens-tu des jours de nos confinements? J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant à mes questionnements.
Croix au printemps, du verbe croître. Un nouveau titre de Mathieu Chédid. Toutes les recettes seront reversées au Secours Populaire. C'était Périscope. Merci Jean-Philippe Ballas.
La Caisse d'Épargne vous présente l'opinion de Nicolas Bétou. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
L'opinion de Nicolas Bétou. Nicolas, vous revenez ce matin sur la décision du Conseil des ministres d'accorder une médaille aux personnels qui se sont battus en première ligne contre le coronavirus.
Et oui, et c'est vraiment rassurant au moment où on commence à sortir du confinement de voir que même si la crise du coronavirus a durement secoué le pays, la France reste la France. C'est bien connu, nous avons une forme de passion pour les décorations, qu'elles soient militaires ou civiles. Napoléon Bonaparte, premier consul, l'avait bien compris lorsqu'il créa la Légion d'honneur, et De Gaulle aussi lorsqu'il créa l'Ordre national du mérite. Alors je ne sais pas si Emmanuel Macron a en tête ces deux glorieux précédents, mais voilà, il y aura une médaille de l'engagement face aux épidémies qui sera épinglée au revers de ceux qui ont particulièrement mérité dans cette crise du Covid-19.
En fait, ce n'est pas la création d'une nouvelle médaille, mais sa réactivation. Elle avait été créée au 19e siècle, en 1884.
Effectivement, pour honorer les héros de la lutte contre une épidémie à l'époque de choléra. Ben oui, là aussi, c'est un bel hommage à cette France immuable. Un projet, une question, il suffit de fouiller dans les archives de l'histoire et dans les greniers de la République pour trouver un précédent. C'est l'avantage des vieilles nations. Elles ont une histoire, mais c'est aussi leur inconvénient. Elles tirent derrière elles tout un cortège de références, de décisions, de faits tombés en désuétude et qui encombrent souvent notre quotidien, qui rendent compliquée la moindre décision. Tenez, cette prime qui a été promise par le chef de l'État.
Une prime de 1 500 € pour les soignants de la toute première ligne et de 500 € pour les autres.
Exactement. Eh bien, elle n'est toujours pas versée. Son principe a pourtant été annoncé par Emmanuel Macron il y a près de 2 mois, confirmé mi-avril par le Premier ministre, mais Sibène Diaye vient d'admettre que le gouvernement ne savait pas si elle pourrait même être versée sur la paye du mois de mai. Un décret n'a pas été signé. Et tout est bloqué, c'est l'administration dans toute sa splendeur. Tout se passe comme si, une fois sorti de la période de crise pendant laquelle l'administration a su prendre et mettre en œuvre des décisions d'urgence, tout se remettait en ordre, redevenait lent, lourd, procédural. Emmanuel Macron a eu beau promettre dans sa campagne électorale de mettre l'État sous tension, de faire bouger l'administration, rien n'a vraiment changé, c'est elle qui recommence à imposer son tempo.
Au demeurant, le principe de cette prime est très critiqué par les syndicats et des collectifs de médecins.
Ben oui, ils voulaient bien être applaudis chaque soir, être les héros de cette guerre contre le virus, mais il faut maintenant du concret, du durable, et sans attendre le grand plan hôpital promis par le gouvernement pour dans quelques mois. Donc ils ne veulent pas de prime, mais une augmentation de salaire pour tous, sans distinction de mérite ou de dévouement. La médaille, les remerciements, les jours de congé offerts, ils n'en veulent pas. Et certains le disent, oui, avec virulence. Et c'est un peu ça aussi, la France, ce pays où domine la défiance et le jugement négatif envers les gouvernements. Comme disait André Frossard, c'est un célèbre journaliste et académicien du siècle dernier, en France, tout revers à sa médaille.
Merci Nicolas Bétou, tout revers à sa médaille. Le directeur du journal L'Opinion tous les matins pour cet édito L'Opinion de Nicolas Bétou, juste avant 8h. Merci Nicolas, 7h55.
C'était L'Opinion de Nicolas Bétou avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Europe 1.
Vous restez bien sûr Europe 1 à suivre le journal à 8h avec François Geffry et la météo Laurent Cabrol. Et avant cela, Mathieu Noël avec son équipe sauvage. A tout de suite.
Mathieu Béliard.
7h57 sur Europe 1. Vous avez reconnu le saxophone, c'est Mathieu Noël qui arrive avec son équipé sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu. Oui, j'en ai joué du saxophone quand j'étais jeune. Il faudrait que j'essaye de jouer le générique de l'équipé sauvage moi-même. Je ne suis pas sûr que ça sonnerait aussi bien. À mon avis, ça serait un peu foireux.
Je garde cette promesse de Mathieu Noël, un engagement
peut-être pour
ce matin.
Pour la dernière, je tenterai. Cet après-midi, Mathieu, je vous attends pour 2 heures d'allégresse informative en compagnie toujours des meilleurs journalistes de la rédaction qui vous expliqueront notamment comment occuper vos enfants quand ils n'ont pas pu retourner à l'école. 2 heures pour vous redonner la pêche après 55 jours d'hibernation. C'est le constat cruel qui s'impose. Le confinement a fait beaucoup de mal à certains. Moi, par exemple, j'ai pris 5 kilos et je suis blanc comme un cul. 5. Et je peux vous dire que, d'un point de vue de la coloration, je suis blanc comme un cul d'anglais à Noël. Alors, vous, Mathieu, mon beau salaud, je vous vois sur l'écran, vous êtes bronzé qu'on dirait un plagiste brésilien à Copacabana, ouais. Vous avez fondu d'au moins 10 kilos, vous avez l'air affûté comme jamais.
Je fais 80 pompes d'affilée maintenant.
Et toujours aussi modeste, visible, toujours aussi modeste. En plus, vous avez retrouvé votre côté rock'n'roll, un peu nos limites.
Je viens d'éternuer sans mettre mon coude.
Oh, il est fou. Oh le dingo. Et il se murmure même, une rumeur, que vous êtes devenu un donjon avec les femmes et à qui vous parlez désormais avec beaucoup plus d'assurance.
Toi, je veux bien que tu viennes, mais sans ton mari.
Eh ben, on sort pas tous égaux de ce confinement. Hein. Mais en revanche, on peut tous écouter l'équipée sauvage à 16h. Aujourd'hui, je vous le disais, les conseils pour occuper les enfants avec Agathe Le Caron, la présentatrice de la maison des maternelles sur France 1.
Je me rappelle toujours de tous les extraits. Là, ce matin, pas tous. Vous voyez,
c'est
Mathieu
vrai.
Noël.
Il y en a certains, vous savez pas d'où ça vient.
Le mari, du coup, du mari, je sais pas. Je sais plus à qui je l'ai dit. Mathieu Noël, l'équipée sauvage. C'est de 16h à 18h sur Europe 1 en attendant le saxophone pour la dernière. Merci Mathieu. Laurent Cabrol est avec nous à 7h59. C'est l'heure de la météo.
Pour bronzage Marcel, ça va être dur aujourd'hui parce que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Alors pour si vous habitez le littoral de la Manche, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Centre, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, Bourgogne et Lorraine, vous avez des chances d'avoir des coups de soleil et de prendre un petit peu de couleur puisque le soleil sera là assez présent même, très présent. Sur l'Aquitaine, le Massif central, le Mâconnais, le Dijonnais et l'Alsace, des éclaircies avec quelques passages nuageux qui au fil des heures seront de plus en plus nombreux et même parfois légèrement menaçant, mais enfin pas trop de pluie. Et puis alors un temps où il y aura de la pluie et des orages même, l'Occitanie, des orages pourraient être violents en fin de journée. Le Midi-Pyrénées dans son ensemble, donc par définition, la Provence, les Alpes, les Cévennes et la Franche-Comté. Vous connaissez la couleur du temps. Je vous donnerai maintenant les températures. 14 degrés à Caen.
J'ai cru que c'était un jeu. Oui, c'est le rouge. Non, pardon, continuez.
17 à Lille et Lyon, 18 à Nancy, Bordeaux et Colmar, 19 à Toulouse, 21 à Nice et 22 à Marseille. Et puis demain, ce sera exactement la même qu'il d'attente. Et la semaine prochaine, à partir de dimanche d'ailleurs, ce sera vraiment, là nous allons attaquer un petit côté estival assez sympathique.
Et on en avait besoin. Merci beaucoup Laurent Cabrol pour la météo. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé.